Bonjour à tous, plaisir de vous retrouver et plaisir aujourd'hui de recevoir un visage du cinéma qui se fait voix de la chanson française. La comédienne Françoise Fabian fête ses 85 ans avec un premier disque réalisé par Alex Baupin et entouré de Dominique A, Julien Clerc, la grande Sophie ou encore Charles Aznavour. Elle est notre première invitée à écouter, et c'est bien le mot, jusqu'à midi et demi. Puis l'invité de la deuxième partie de la grande table aujourd'hui est biologiste, il s'appelle Jacques Testard. Dans Au péril de l'humain qui paraît au seuil, il pointe les promesses suicidaires du transhumanisme et les inégalités à venir, à retrouver après le journal de Benoît Bouscarel dans la deuxième partie de l'émission à 12h55. Vous écoutez France Culture, on est ensemble jusqu'à 13h30.
La grande table. Olivia Gesbert.
Invité de la grande table en mars dernier à l'occasion de son Benvenuto Cellini, l'opéra maudit de Berlioz qu'il a mis en scène à l'Opéra de Paris, le Britannique Terry Gilliam peut enfin se réjouir de voir son Don Quichotte en salle depuis samedi. Lui qui nous disait « La création est une bataille, plus il y a de contraintes, plus on produit des choses fortes, il aura été servi ». Son film projeté en clôture du Festival de Cannes, dont la 71e édition s'est achevée samedi soir sur un palmarès éclectique et politique. Il a d'ailleurs dit partager son prix avec les deux réalisateurs qui n'ont pas pu être présents, le russe Kirill Serebrennikov et l'iranien Jafar Panahi. 5 ans après Tel père, tel fils, prix du jury, le japonais Kore-eda devient donc la Palme d'Or 2018 pour son film Une affaire de famille, qui met en scène une famille recomposée, famille choisie, des personnages à la marge, un peu bandits, qui se tiennent chaud dans un cocon précaire, un drame social et poétique. En attendant de voir son film, dont la date de sortie n'est pas encore connue, Kore-eda vous parlait à Cannes du cinéma qu'il aime et du cinéma qu'il fait.
Effectivement, c'est une approche, un procédé que j'apprécie. En tout cas, j'aime bien cette façon de faire. Et en même temps, pour ce film-ci, en l'occurrence, j'ai été secondée par un chef opérateur qui s'appelle Monsieur Kondo. Et c'est lui qui m'a fait cette proposition de dire, voilà, ce film est un film réaliste, un film qui parle du réel. Et en même temps, j'aimerais pouvoir y insuffler une note de poésie. J'aimerais donner une dimension non pas fantastique, mais en tout cas qui donne une couleur, une tonalité supplémentaire au réel. On a travaillé à la fois le cadre, les lumières, les couleurs, le décor en fonction de sa proposition. Donc il a joué un rôle déterminant dans l'esthétique du film et dans l'approche du film.
Kore-eda, écoutez sur franceculture.fr, vous pourrez également retrouver nos trois grandes tables, plan large d'Antoine Guillot et le palmarès complet de cette 71e édition. Bonjour Françoise Fabian.
Bonjour.
Cannes, vu de loin, vous avez été parfois critique envers les Molières, les Césars. Est-ce que Cannes est pour vous une compétition comme les autres? Vous y avez été présente avec Manu Chémaud d'Éric Rohmer en 69, avec Raphaël ou Le Débauché de Michel Deville en 71, aussi avec un film de Manuel de Oliveira, La Lettre, je crois, cette grande messe du cinéma. Vous la regardez quand même avec curiosité quand elle se déroule?
Je l'ai regardé avec beaucoup de bonheur, de curiosité et d'intérêt pendant des années. Mais là, je ne la regarde pas parce que je trouve que c'est trop commercial. Et ça, c'est très agaçant. Alors, il y a le tapis rouge, il y a le bling-bling, les robes, les choses. Je trouve que ça n'est plus du tout intéressant. Moi, ce que j'aimais au Festival de Cannes, c'est quand on arrivait, on était beau, on était bien, on s'asseyait, on était tous très contents d'être là, et puis on voyait un film. Là maintenant, c'est les journaux, les télévisions, les photos, les robes, les bijoux, c'est devenu, je sais pas, c'est une espèce d'une grande foire. Heureusement qu'il y a des films, mais y en a-t-il tellement, d'ailleurs? On ne sait pas.
Est-ce que c'est tout le cinéma qui est devenu commercial, trop commercial, ou il reste pour vous aujourd'hui un cinéma d'auteur?
Je trouve que le cinéma est devenu très 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 commercial. Mais peut-être ne dit-il ne peut-il pas faire autrement? Parce que il est évident qu'il y a beaucoup moins de public. C'est comme au théâtre, il y a moins de public au théâtre, il y a beaucoup moins de public au cinéma. Et puis, le cinéma, bon, il y a un film dans l'année qui marche très très fort, qui casse tout, au dépens des autres, probablement. Je crois que je crois qu'il y a, moins de public, c'est tout. Et à cause de ça, il y a peut-être moins de cinéma.
En 69, vous allez donc à Cannes avec Éric Rohmer pour Ma nuit chez Maud. C'est le film qui semble avoir marqué votre parcours, votre carrière aussi d'actrice. En quoi était-ce si particulier de tourner avec Éric Rohmer? Pourquoi ce film est resté en vous peut-être plus que tous les autres?
C'est un mystère, parce que je ne sais pas exactement. Éric Rohmer m'a vu dans des choses tellement différentes, dans La puce à l'oreille, dans le film de Louis Malle, dans le film de Buñuel. Pourquoi est-il venu me chercher? C'est un mystère. Il m'a dit, je ne ferai pas le film si vous ne le faites pas. Et Truffaut m'avait dit, Rohmer a écrit un scénario tellement formidable, il pense à vous. Françoise, il faut absolument que vous le fassiez. Et puis quand Rohmer est venu, qu'il m'a fait dire, j'ai dit, ah oui, il faut que je le fasse. Mon agent était tout à fait contre, on me disait, qu'est-ce que c'est que ce film en noir et blanc sur le Paris de Pascal, alors que tu refuses tout, qu'est-ce que... Je dis, non, ça je le fais. Je le fais, il n'y avait pas d'argent, c'était très, 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 très pauvre. On était 5, mais de grande qualité. Tous les gens étaient de grande, grande qualité. Nestor Almendros et tout ça. Et ça a été fait avec très, très peu de moyens. Nous étions dans un tout petit studio rue du Sabot, qui ne venait pas d'être fini. Et on a travaillé dans cette pièce. Et on n'a fait qu'une prise. On n'a jamais fait qu'une prise. Et c'est un mystère. L'affiche est sortie. Elle était très, très, très belle. Elle a été placée partout. Et voilà, c'est une très, très belle aventure. Et en même temps, Rohmer, il a découvert chez moi des choses qui me ressemblent tellement, tellement, que je me dis, c'est une nouvelle naissance pour moi, Ma nuit chez Maud. Une nouvelle naissance artistique, oui.
Tiens, c'est vous. Il y a longtemps que vous êtes ici?
Nous venons d'arriver.
Vous êtes la dernière personne que je m'attendais à rencontrer.
Pourtant, nous venons tous les ans.
Vous n'avez pas changé.
Vous non plus. Vous connaissez ma femme?
Oui, oui, nous nous connaissons, enfin, de vue. Mes félicitations. Pourquoi ne m'avez-vous pas envoyé de faire part?
J'ignorais votre adresse.
Vous auriez pu me téléphoner avant mon départ.
Je l'ai fait, je crois.
Inutile de mentir, j'ai bonne mémoire. Vous m'avez lâché ignominieusement. Enfin, vous aviez vos raisons. Excusez-moi.
Je vous rejoins.
C'était elle. Comme c'est bizarre, j'aurais dû y penser.
Elle?
Oui, votre femme, Françoise.
Mais je ne vous ai jamais parlé d'elle.
Et comment? De votre fiancée blonde, catholique. J'ai bonne mémoire, vous savez.
Comment aurais-je pu vous parler d'elle puisque je ne la connaissais pas?
Mais pourquoi mentir?
J'ai fait sa connaissance le lendemain même du soir où je suis allé chez vous.
Du soir? Vous voulez dire de la nuit? De notre nuit? Je n'ai rien oublié, vous ne cessiez de me parler d'elle.
Vertueuse ou vénéneuse, Françoise Fabian, vos rôles dans tous les films que vous avez pu tourner, de Belle de jour à Raphaël ou le débauché, de Ma nuit chez Maud, dont on vient d'entendre un extrait, à Madame Claude, vous avez interprété souvent des rôles de femmes fortes et prises quand même de liberté à Cannes cette année, une fois encore, à la tribune de la cérémonie de clôture, un rappel de la situation d'égalité ou d'inégalité entre les hommes et les femmes s'est fait entendre par la voix de la comédienne Asia Argento, qui a pointé le comportement indigne de certains professionnels du milieu envers les femmes et déclaré la fin de l'impunité. Vous passez le relais à cette nouvelle génération de comédiennes aujourd'hui avec facilité, avec aussi d'autres enjeux, peut-être pour elles que pour vous. On se rappellera que vous étiez l'une des signataires du manifeste des 343 salopes, c'était en 71 que vous avez, et vous restez proche d'une Gisèle Halimi ou encore d'une Simone Veil, des femmes féminines et féministes aussi.
Oui, ça n'est pas incompatible, au contraire. La dignité d'une femme, c'est aussi de se sentir femme et se sentir aussi forte qu'un individu à part entière. Moi, je me suis toujours défendue. Je me suis jamais laissée faire. J'ai toujours choisi aussi qui je devais rencontrer, qui je devais aimer. Je revendiquais mon identité, ma personnalité, ma force de vie. Et je comprends très 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 mal que les femmes ne soient pas payées exactement pour le même travail que les hommes. Et je ne comprends pas comment les femmes peuvent se laisser manipuler comme ça sexuellement. C'est une chose qui me révolte parce que ça veut dire qu'elles n'ont pas confiance en elles. Ça veut dire beaucoup de choses. Évidemment, si on a un couteau sur la gorge et qu'on a un revolver, on peut pas se défendre. Mais faire des gâteries à un monsieur pour trouver du travail, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment ignoble. Non, il y a une chose qui est très injuste et ça, il faut absolument le combattre. C'est les patrons qui font du chantage comme ça à leurs employés pour ou qui les renvoient si elles ne passent pas par ce qu'ils demandent. Ça, c'est, il faut absolument que ça finisse. C'est surtout ça. Il faut que ça finisse, ça. Cette espèce de mainmise comme ça, de pouvoir sur les employés, sur les gens qui travaillent dans une entreprise, dans les bureaux et tout ça. Bon, qu'une actrice fasse une gâterie avec un grand producteur, ça la regarde, mais qu'elle vienne pas se plaindre.
Bon, ça c'est un peu le Time's Up de Françoise Fabian. Ça c'est dans les coulisses de ce milieu-là qu'évoquait donc aussi Asia Argento. Mais à l'écran, vous avez toujours refusé que le cinéma devienne aussi une affaire de morale. En gros, la question de la représentation des femmes à l'écran, est-ce qu'elle a aussi beaucoup compté pour vous dans le choix de vos rôles?
Mais beaucoup. Je ne pouvais pas accepter un rôle qui me divise, qui divise ma mentalité, qui m'assujettisse à quelque chose. Je n'étais pas d'accord. Il y a des choses, il y a des scènes que je n'ai pas acceptées de certains metteurs en scène. Et j'en ai parlé au producteur en disant ça n'était pas dans le scénario, mais on exige que je fasse ça. Je vous dis tout de suite que je refuse. Et en général, le producteur me disait toujours vous avez raison, ne le faites pas.
Pas de guerre des roses dans ce disque éponyme, Françoise Fabian, plutôt une déclaration d'amour au cinéma, à ce tant de choses que j'aime, pour reprendre l'un des titres de cet album, et à ce diable d'homme aussi, le réalisateur Jacques Becker, auquel vous avez été marié jusqu'à sa mort en 1960, un ouragan, une tempête, moitié enfant et moitié loup.
Je croyais à l'amour idyllique et céleste. J'ai peut-être un peu trop rêvé au cinéma. Ma province natale avait déteint sur moi. Et je vivais tranquille, sans haut et sans bas. Mais je me suis donné sans opposer un geste. Et quand je dis donner, le mot est faible en soi. Un jour, un ouragan s'est abattu sur moi, dévastant mes printemps qui n'en revenaient pas. Ce diable d'homme, cette tempête, moitié enfant et moitié loup. Parfois sérieux, plus souvent fou, a mis le désordre en ma tête et mon cœur sans dessus dessous. Ce diable d'homme, gorgé de sève, ce personnage hors du commun, n'obéissant qu'à ses instincts, qu'avait pas de place en mes rêves, j'en rêve. Ce diable d'homme, c'est le mien. Il est omniprésent, il s'agite et discute. Il déborde de vie, qu'il en est fatigant. Il m'achète des roses et m'impose des gens que je ne connais ni des lèvres ni des dents. Au lit, j'ai l'impression de vivre dans la hutte d'un géant primitif venu du fond des temps. Lorsque, voyant mon corps, il me dit véhément, il va falloir penser à se faire un enfant.
ce diable d'homme, cette tempête, moitié enfant et moitié loup, parfois sérieux, plus souvent fou, a mis le désordre en ma tête et mon cœur sans dessus dessous.
Il avait tout ça de plus que les autres, Jacques Becker, Françoise Fabian.
Il avait, oui, tout ça. Et mon second mari avait tout ça aussi. C'est-à-dire que j'aime ce genre d'homme, quoi.
Qui vous mettent la tête sans dessus dessous.
Oui.
On a le sentiment que vous vous êtes réellement laissé emporter par le tourbillon de la vie, Françoise Fabian.
Peut-être emporter n'est pas le mot exact. Je l'ai provoqué. Parce que j'ai eu la chance, c'est vrai, j'ai eu la chance de rencontrer et de faire des rencontres extraordinaires de gens merveilleux qui m'ont aimé et que j'ai aimé sur le plan de l'amour et de l'amitié. Des gens qui m'ont aidé vraiment, qui m'ont soutenu, avec lesquels je me suis beaucoup amusée, et il y avait une grande complicité, et j'ai eu beaucoup, beaucoup d'amis, et j'en ai encore beaucoup. Avant, ils étaient plus vieux, parce que j'étais plus jeune, donc je préférais les plus vieux, et maintenant, je préfère les plus jeunes, parce que les jeunes ont plein de choses à m'apprendre. Mais je crois que d'une certaine manière, j'ai provoqué ces rencontres. C'est-à-dire que je n'en ai pas eu peur. Je suis allée à la rencontre des choses qu'on me proposait et je ne me suis jamais laissée séduire par des choses plus artificielles. Je n'ai pas fait des grands films. Je n'ai pas fait des grands films. Mais finalement, tout le monde a fait des nanars, hein. Les plus grands acteurs américains ou italiens ont tous fait des nanars, et d'une certaine manière, c'est assez jubilatoire parce que on apprend des tas de choses quand on fait des films pas de très grande qualité. On apprend ce qu'il faut ne pas faire d'abord, et puis il faut porter un jugement. Ça aide la connaissance du métier.
Et parmi les plus jeunes, il y a l'auteur, compositeur, interprète Alex Baupin qui a réalisé cet album. Vous vous rencontrez sur Les gens dans l'enveloppe en 2015, un livre chanté d'Isabelle Monin. Vous ne tarissez pas d'éloges sur ce jeune homme talentueux, séduisant, doué. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous ne signez pas les textes de cet album. Ils sont signés de Jean-Claude Carrière, ils sont signés de Charles Aznavour, de Vincent Delerme, de Dominica, et aussi d'Alex Baupin. Et vous appropriez ces mots, cette mélancolie heureuse, cette légèreté espiègle, est-ce qu'elle vous correspond ?
Oui, bien sûr. J'aime raconter des histoires en musique, j'aime raconter des situations en musique, que ce soit des choses amusantes ou des nostalgies ou des souvenirs, des élans de tendresse. Je trouve que les chansons françaises sont extraordinaires. Il y a une variété, une richesse de chansons françaises. Il y a eu des auteurs français qui sont tellement merveilleux que je n'éprouve absolument pas, malgré la facilité de la langue, de chanter en anglais. J'écoute les chansons, le jazz et tous les chanteurs américains, mais j'ai envie de chanter en français. J'ai envie de chanter des chansons françaises qui racontent des histoires. Ce sont des petits films en musique, en fait. Ce sont des situations en musique. J'ai toujours aimé ça depuis mon enfance.
Vous n'avez pas eu envie d'écrire, vous n'aviez pas envie de chanter vos propres mots, d'être l'interprète de vous-même.
Oui, j'ai écrit des chansons quand j'étais petite, enfin j'avais 15 ans, 16 ans, des chansons un petit peu ridicules, assez tristes d'ailleurs, que ma mère a appelé mes chansons de fille-mère, pourquoi tu as écrit des chansons de fille-mère. Mais j'en ai 3 ou 4 comme ça dans mon escarcelle. Et j'ai, voilà, non, c'est pas assez bien. C'est pas assez bien.
Bon, en tout cas, c'est pas une Françoise Fabian fantasmée par tous ces auteurs que vous devez une fois encore incarner ici, comme la Françoise Fabian du cinéma. Vous vous retrouvez visiblement à travers ces mots que l'on vous prête. Toute première pièce, Le Pirate, du dramaturge Raymond Castan, Françoise Fabian, l'ami de Marcel Pagnol. Tout premier film, Les Mémoires d'un flic, de Pierre Foucault, dans les années 50. À votre sortie du conservatoire, comment vous regardez aujourd'hui, un petit peu plus de 80 berges, le chemin parcouru? Après tout, après quoi vous couriez, pour reprendre le titre de la première chanson de l'album?
Après quoi je courais? Mon Dieu, je courais. Je courais, je ne courais pas en même temps. Parce que j'avais envie de faire des choses, j'avais envie d'entreprendre des choses, j'avais envie de connaître des gens, j'avais envie d'une vie comme ce qu'on trouve dans les lectures. Enfin, j'avais envie que la vie soit une aventure. Et non pas quelque chose de construit, de calculé. Je me suis laissée porter par les rencontres, par la chance, par ma vitalité et par le goût que j'ai des mots. Par quoi exactement? C'est une analyse que j'ai pas cru devoir faire.
Vous le faites un peu en direct avec nous, Françoise Fabian. Chaque chanson, vous le racontez dans cet album, est pour vous un film en soi.
Oui.
Chaque demi qui vous a dirigé dans Trois places pour le 26 avec Yves Montand, ne parlez-lui pas de comédie musicale, mais de film enchanté, et il s'en expliquait.
Bien, j'ai osé parce que je l'aime profondément. J'étais guidé par un sentiment profond d'amour envers ce genre-là, qui est un genre baroque, c'est un genre qui réunit tellement d'arts différents, enfin littérature, peinture, chorégraphie, musique. C'est évidemment difficile à manier, c'est très très dur. Comparé aux Américains, nous n'avons pas les mêmes moyens, c'est vrai. Encore que là, j'ai eu vraiment beaucoup de chance pour faire le film. Et je dois dire que les Américains qui l'ont vu à présent ont été très très emballés et n'ont pas souffert par la différence, mais au contraire ont été heureux de trouver un esprit français qui les étonne. Et ça, je crois, c'est important. Quant à la méfiance des Français, c'est une méfiance intellectuelle, c'est une attitude que je regrette parce qu'elle me fait poser cette question malgré tout. Enfin, est-ce que les Français ont perdu le sens de l'humour à ce point, par exemple, de ne l'attacher d'importance qu'à une chose dramatique, une chose sérieuse? On ne peut pas mettre dans une comédie musicale une densité de pensée que l'on met dans un drame, sinon ce n'est plus une comédie. Il y a une espèce de contradiction là. Peut-être on peut faire une comédie musicale sérieuse, je l'avais essayé avec Les Parapluies de Cherbourg, mais le sentiment est complètement différent. Or je voudrais qu'on accepte cette légèreté, mais qu'on ne la prenne pas à la légère.
Alors cet album, Françoise Fabian, magnifique. C'est presque une comédie musicale aussi.
Ah, ça me touche tellement. Demi. Il m'avait proposé de jouer la fée dans Peau d'âne. Et c'était Elphine Seyrig qui revenait des États-Unis, qui l'a fait admirablement d'ailleurs, elle était merveilleuse. Mais j'ai regretté beaucoup de ne pas faire la fête en peau d'âne. Mais j'étais occupée à cette époque-là, j'avais un film en Italie. Et après, quand il m'a proposé Trois places pour 26, il m'a dit « ce n'est pas le rôle de ta vie, mais j'ai très envie de travailler avec toi depuis très longtemps. Et je vais te faire lire le scénario. » J'ai dit « non, ce n'est pas la peine. » C'est pas la peine que tu me fasses lire le scénario. Tu n'as pas besoin de me raconter tout ça. Je le fais avec toi. J'ai très envie de faire ce cinéma-là. J'ai une passion pour Demi. Et en même temps, je peux raconter cette histoire. Quand j'ai vu les Parapluies de Cherbourg, par exemple, je suis sortie des Champs-Élysées, je dansais sur les Champs-Élysées. Vous savez que ça m'est arrivé avec ma sœur dans ma jeunesse de ne communiquer qu'en chantant, ce qui exaspérait mes parents. Parce que c'était le côté « passe-moi le sel, tout ça est bien fade, mais oui ma chérie, mais tu devrais mettre aussi du poivre, parce que da-da-da-da. » Et alors on chantait, et on dit « mais taisez-vous, arrêtez, c'est pas possible. » Et on chantait tout le temps. On se faisait notre comédie musicale à nous.
Cligner des yeux pour voir Françoise Fabian.
Cligner des yeux, c'est joli.
Cligner des yeux. Oui. En duo avec Alex Baupin, oui, sur un texte de Dominique. Oui.
Mais j'adore toutes ces chansons. J'aime énormément toutes les chansons qu'on m'a données.
J'arpentais un bout du monde, j'ai cligné des yeux, et soudain,
la vie en moins d'une seconde a pris un tout autre chemin. Sous le printemps couve l'automne, j'ai cligné des yeux trop souvent.
Enfile les ficelles, les printemps, je me retrouvais sans personne.
D'autres fois pour faire disparaître un amour un peu trop pressant.
J'ai cligné des yeux et courtant quelques-unes des plus belles fêtes.
Je ne me suis pas rendu compte,
je pensais que j'avais le temps.
Que mes yeux bâtissaient le monde,
mais j'ai cligné des yeux trop souvent. J'ai soutenu bien des regards,
pour peu que ceux-ci me promettent
de me faire veiller très tard
et de m'épargner les peut-être.
Mais ton regard m'éblouissant,
je n'ai pas su ne pas fermer
les yeux l'espace d'un instant qui t'a suffi pour
t'éclipser.
T'éclipser, avant que vous vous éclipsiez, Françoise Fabian. La musique, le chant, le piano étaient au tout début, avant le jeu, avant le théâtre, avant le cinéma. C'est donc comme un retour aux sources, cet album. Et vous allez vous produire sur scène, parce qu'il y a aussi, peut-être que c'est né du théâtre, ce plaisir de la scène que vous retrouverez donc avec la chanson cette fois, le 7 juillet dans les salons de l'Hôtel de Ville pour un premier concert, puis les 19, 26 et 3 décembre au Théâtre de l'Athénée, avant une tournée nationale l'an prochain. Un seul en scène que vous n'appréhendez pas du tout, que vous ouvrirez.
Que j'appréhende, c'est pas normal que je n'appréhende pas, ça c'est nouveau quand même pour moi. Pas tout à fait nouveau d'ailleurs, parce que il y a 2 ans, j'ai chanté une chanson de... c'était avec Eric Samnia qui avait l'orchestre Les Yeux Noirs et qui m'a demandé de chanter cette chanson oh mon Dieu, le nom qui s'appelle je sais plus. Là, mais, je suis très troublée.
Mais cette chanson, c'était quoi?
C'était une chanson de... je me souviens plus du nom.
Mais vous vous souvenez de la chanson?
Oui, je me souviens de la chanson. C'était Un jour, tu verras. Mouloudji, voilà. Mouloudji. Et j'ai chanté ça en public. Et j'avais une peur, mais une peur épouvantable. Je n'ai répété qu'une fois. Et c'était épouvantable quand j'ai répété. Et puis le soir, enfin, je suis allée chez moi m'habiller, me coiffer et tout ça. Et quand je suis revenue, je suis rentrée en scène avec le micro. Et là, ça a été, j'espère que ça sera comme ça, une espèce de dilatation, comme on dit, dilatation physique et mentale, tellement je trouvais ça magnifique en public d'avoir un micro et d'entendre ma voix. C'était vraiment fantastique. Enfin, j'ai beaucoup aimé. Alors, j'espère retrouver ce sentiment et cette émotion-là.
On espère aussi vous voir heureuse sur scène très prochainement, Françoise Fabian. En attendant, il y a cet album éponyme sorti dans les bacs vendredi. Merci beaucoup d'être passée autour de cette grande table.
Merci
mille fois.